Conversation secrète, Philippe Vasset, Pierre Gatineau. Aujourd'hui, les espions qui aimaient trop le business, la Chine.
Cette petite vidéo a été largement diffusée à la télévision chinoise à l'heure où les enfants rentrent de l'école. On y voit un jeune garçon observer son père travailler à la maison sur son ordinateur et envoyer des documents par Internet. Jusqu'à ce que le grand-père surgisse et mette père et fils en garde contre les méchants espions étrangers qui guettent dans l'ombre des réseaux.
C'est l'un des paradoxes de l'espionnage chinois. Alors que l'Europe et les États-Unis vivent dans la hantise des espions de Pékin, accusés de vol de secrets industriels à grande échelle, la Chine, de son côté, brandit sans cesse la menace des agents déstabilisateurs venus de l'étranger et n'hésite pas à mener de vigoureuses expulsions de diplomates et de militaires occidentaux à la première alerte.
Sans remonter jusqu'au théoricien Sun Tzu, qui leur consacre le dernier chapitre de son art de la guerre, l'espion est une figure centrale dans la tradition chinoise. Le maître de la vallée fantôme ou les 36 stratagèmes, texte canonique de la haute antiquité, font du renseignement l'arme décisive des royaumes combattants.
Une visibilité culturelle qui contraste avec l'effacement des espions dans la Chine contemporaine. Aujourd'hui, les praticiens de cet art millénaire se montrent peu et ne s'expriment jamais. L'histoire des services de renseignement de la République populaire de Chine étant une longue suite de purges, aucun dirigeant n'a envie d'être le prochain sur la liste pour un mot malheureux. Car les représailles peuvent être brutales. L'année dernière, Pékin a été capable de rapatrier de force le patron d'Interpol, puis de tenter d'enlever sa femme restée en France, à Lyon, au nez à la barbe des services français.
Dans cette ambiance, convaincre les maîtres espions chinois de parler à des journalistes est avéré une gageure. Pour approcher au plus près le renseignement chinois, nous avons donc multiplié les détours, à Londres d'abord, ancienne tutelle de Hong Kong, mais aussi à Berlin, Washington, Tel Aviv, pour rencontrer tous ceux qui ont eu affaire au ministère de la Sécurité d'État, la CIA chinoise.
Je m'appelle Nigel Inkster. Je suis conseiller de l'International Institute for Strategic Studies pour les questions cyber et pour la Chine. J'ai été fonctionnaire du Secret Intelligence Service, le MI6, jusqu'en 2006. Mon dernier poste était assistant du directeur et responsable des opérations.
Pour compléter le CV de Nigel Inkster, il faut préciser qu'il a été, pendant près de 10 ans, le chef de poste du MI6 à Pékin, puis à Hong Kong, le territoire britannique rendu à la Chine en 1997. Autrement dit, il a consacré toute sa carrière à interagir avec les espions de la Chine continentale. Il sera notre guide.
Au Royaume-Uni, la profession d'agent de renseignement est généralement considérée comme un métier noble, choisi par des gens qui pourraient tout aussi bien se retrouver dans la banque ou dans la politique. Ce n'est pas du tout le cas en Chine, où il n'y a pas de tradition autour des services de renseignement en tant qu'institution. Il y a une tradition du renseignement beaucoup plus large. La Chine est un État espion en soi, et non un État qui emploie des espions. Lorsque le Parti communiste chinois était encore en formation dans les années 20, à Shanghai, les cadres comme Chou Enlai, qui deviendra Premier ministre après la Seconde Guerre mondiale, avaient une solide formation de renseignement, acquise pendant la guerre contre le Japon, mais aussi contre le Kuomintang. Le Parti communiste chinois a été fondé dans une atmosphère de complot, de clandestinité et de menaces existentielles.
Si
paranoia is an institutional requirement.
Et si vous êtes un parti marxiste-léniniste, la paranoïa est une obligation. Vous êtes constamment menacé, et votre raison d'être, c'est de résister aux menaces extérieures. Ça a été une caractéristique essentielle des premiers temps de la République populaire de Chine. Et cette culture a profondément imprégné tout le système.
Cette internationale d'anthologie est chantée dans la Fondation de la République, une superproduction de l'État chinois où les pères fondateurs du Parti communiste, incarnés par les plus grandes stars du pays, mobilisent tour à tour leurs espions pour traquer les éléments néfastes au sein du parti.
Près d'un siècle plus tard, le système de renseignement chinois s'est complexifié en une multiplicité d'agences, une suite d'acronymes et d'idéogrammes dans lequel il est parfois difficile de se retrouver. Tout en haut de la pyramide, il y a d'un côté le ministère de la Sécurité d'État, ou Guangbo, et de l'autre, celui de la Sécurité publique, ou Gogangbu. Mais la Chine reste un pays communiste. Tous ses services d'État sont doublés par d'autres, rattachés au parti.
The Chinese intelligence services, for most of the first four decades of the People's Republic, their efforts were largely focused.
Si l'on regarde les services de renseignement chinois durant les 4 ou 5 premières décennies de la République populaire, c'était d'abord et avant tout des services de renseignement intérieurs, occupés à combattre les éléments hostiles au Parti communiste. Leur lutte était principalement idéologique. Ils étaient enrôlés dans la guerre de classe perpétuelle, telle que Mao l'a définie. L'action des services chinois hors du pays était très limitée. Il y a peu d'exemples d'opérations de renseignement chinois hors du pays à l'époque. Mais il faut comprendre que le Parti communiste a ses propres moyens d'action hors de Chine, tels le département du Front de Travail Uni, dont la mission est d'établir des liens avec toutes les entités qui ne sont pas ouvertement hostiles à la Chine, mais également à éliminer les forces potentiellement hostiles.
A constituency, a global constituency more sympathetic to China and to eliminate possible sources of hostility. You had an international liaison department whose function was to liaise with other communist parties.
Vous avez aussi l'organe de liaison international du parti qui fait le lien avec tous les partis communistes du monde, qu'ils soient au pouvoir ou non. Et on se souvient que pendant le règne de Mao, l'un des buts de la Chine était de promouvoir la révolution prolétarienne dans le monde entier. Au sein du parti État chinois, les complots et l'action clandestine ne sont donc pas le seul apanage des services. Il y a une large gamme d'acteurs qui ont également recours.
I mean, the principal civilian intelligence service of China in when the People's Republic was established was at that point known as the Social Affairs Department of the Chinese Communist Party.
La principale agence de renseignement non militaire était à l'origine le département des affaires sociales du Parti communiste chinois.
Yes, it was there primarily to serve party interests. Of course, for the Chinese Communist Party has always sought
Puis c'est devenu le département des enquêtes, dont le mandat était d'abord et avant tout de servir les intérêts du parti. Bien sûr, le Parti communiste s'est toujours présenté comme indissociable de l'État chinois. C'est pour cette raison que je préfère toujours désigner la Chine comme un parti-État, car c'est comme cela que les dirigeants chinois le conçoivent. Donc, à côté de ces agences de renseignement civil, qui étaient à l'origine des organes du parti, il y a eu également le ministère de la Sécurité publique, qui est un organe d'État à la fois responsable de la police et du contre-espionnage. Mais son aire d'intervention va bien au-delà, puisque l'un des principaux succès du renseignement chinois hors de ses frontières, le recrutement du diplomate français Bernard Boursicot, a été géré de bout en bout par ce ministère.
Bernard Boursicot était le comptable de l'ambassade de France en Chine. Dans les années 60, il fut séduit par une chanteuse de l'opéra de Pékin et convaincu d'espionner pour le compte de la Chine.
L'accusation soutient que M. Calimard était parfaitement conscient de la portée de ses activités d'espionnage. Partagez-vous cette opinion, M. Song ?
Je n'ai pas d'opinion.
Essayons d'aborder le problème sous un autre angle. Est-ce que M. Calimard était averti de la particularité de votre relation ? C'est-à-dire du fait que vous êtes un homme.
Il ne m'a jamais vue entièrement nue. Jamais.
Mais il a dû tout de même... Comment est-ce que je pourrais dire ?
Dites ce que vous voulez. Au cours de toutes ces années, René n'a jamais exploré mon corps.
Monsieur Song, voyons. Au cours de toutes ces années, comme vous dites, jamais, pas même une fois.
Il était très sensible à certaines pratiques amoureuses chinoises héritées du passé, que j'avais toutes inventées pour lui. Rien que pour lui.
Vous n'avez pas encore répondu. Savait-il que vous étiez un homme ?
Je l'ignore. Je ne lui ai jamais demandé.
La chanteuse, comme le montre le film de 1993 de David Cronenberg, était en réalité un homme et fut condamnée, avec Boursicot, à 6 ans de prison. Shi Peipu, c'est son nom, fut finalement gracié par François Mitterrand. Aujourd'hui encore, débusquer les secrets d'alcôve des diplomates occidentaux reste une tactique privilégiée par les espions chinois, qui n'hésitent pas à se servir de ce qu'ils trouvent pour faire pression sur les employés d'ambassade, voire sur leur pays d'origine.
Ces manipulations, qu'elles portent sur des officiers français, américains ou autres, sont généralement étouffées pour éviter le scandale. Aucune capitale étrangère ne veut être confrontée au ridicule de voir ses diplomates chevronnés, attrapés par des hirondelles, le surnom dont les espions chinois ont affublé les entraîneuses chargées de séduire les officiels étrangers. My China girl, I feel the wreck without my little China girl. I hear her heart beating loud as thunder, soul the stars crushing. I'm a mess without my little China girl. Up in the morning is my little China girl.
Côté de ses opérations traditionnelles, la Chine a été l'une des premières puissances à mobiliser son appareil de renseignement pour rattraper son retard économique, et ce dans des proportions chinoises, c'est-à-dire dantesques.
In the mid-1980s, China developed this plan 863.
Au milieu des années 80, la Chine a mis en place un plan, le plan 863, qui était un programme identifiant les technologies critiques sur lesquelles la Chine devait recueillir des informations. Le plan 863 prévoyait de recueillir des informations publiques, mais également des informations protégées.
Including but not solely restricted to the Chinese intelligence services. A lot of this collection was undertaken on a somewhat haphazard basis by individuals.
Une partie de ce plan a été menée par les services de renseignement chinois, mais une partie seulement. Beaucoup d'informations ont été recueillies en désordre par des universitaires, des délégations d'hommes d'affaires en visite en Occident.
Some very successful collection activity in areas like.
Aux États-Unis, des informations précieuses ont été obtenues par la Chine sur les programmes de bombardiers stratégiques, comme les B-1 et les B-2.
Miniaturized nuclear warheads, silent submarine.
Les ogives nucléaires miniaturisées et les sous-marins silencieux, pour ne donner que quelques-unes des technologies américaines dont la Chine est parvenue à voler les secrets. Et cela a été fait de telle manière qu'il s'est avéré quasiment impossible pour les autorités américaines d'enquêter et plus encore de faire condamner ceux qui étaient soupçonnés d'avoir participé à cette entreprise de vol d'informations. Si l'on prend par exemple les têtes nucléaires W88, il a fallu à la Chine près de 20 années de travail de renseignement patient pour obtenir la technologie. Un ancien directeur du FBI disait que c'était comme 1000 grains de sable mis bout à bout. Et donc le FBI en était réduit à observer des activités qui, en soi, semblaient inconséquentes et ne nécessitaient pas de larges mobilisations d'agents, mais qui, prises ensemble, s'avéraient particulièrement efficaces et utiles pour la Chine.
Ce virage économique des services chinois a élargi leur emprise sur la société et leur a permis de traiter avec des professions qui échappaient jusque-là à leur influence.
Une part significative de ce recueil d'informations techniques et scientifiques a été faite par des gens qui n'étaient pas membres des services de renseignement chinois.
They were managed by Costind, you know, the Chinese commission that was responsible for implementing Plan 863. This was a Chinese commission on science and technology industry.
Ils étaient gérés par une commission sur l'industrie scientifique et technique, Costind, qui avait la responsabilité du plan 863.
Under their aegis, but it was, you know, a lot of it was quite unstructured, quite informal.
Mais une grande partie de ce travail de renseignement était informel et laissé à l'initiative des entreprises d'État et des chercheurs qui déterminaient eux-mêmes ce qu'ils pouvaient acquérir. Tout cela a été conçu de manière très centralisée, mais mis en œuvre de manière très décentralisée.
In terms of implementation, there was a lot of leeway for individual initiative.
Mais, même convertis à l'économie, les espions chinois ont gardé un modus operandi plutôt brutal.
Shall we say, Chinese intelligence culture is much less. Seems to be much less concerned about the welfare and safety of individual operatives than would be the case in, say, the United States.
Et puis il faut dire que la culture du renseignement en Chine est nettement moins portée sur la sécurité individuelle des agents qu'aux États-Unis ou au Royaume-Uni, par exemple.
Captured and detained, they will spare no effort to get that.
Dans ces deux pays, si un agent est capturé et emprisonné, les services feront tout pour obtenir sa libération. Ce n'est pas le cas en Chine. Si des agents chinois sont pris, ils sont le plus souvent laissés à leur sort, et leur pays ne fait pas de véritable effort pour les récupérer. On peut penser que de telles pratiques risquent de décourager les vocations d'espions. Donc oui, il y a eu beaucoup d'agents capturés durant la mise en œuvre du plan 863. Mais si l'on fait le bilan, et c'est ce qu'a fait le journaliste américain David Wise dans son livre « Tiger Trap », en synthétisant les archives de procès, on réalise que les faits étaient suffisamment flous pour que les agents chinois ne soient presque jamais condamnés pour des faits d'espionnage, mais pour des délits bien moins graves. Au final, ils n'ont bien souvent obtenu que des peines symboliques.
There is an old Chinese proverb. Life is like a game of chess.
L'un de ces agents chinois, l'américain Glenn Duffy, a hérité de bien plus qu'une peine symbolique. En 2010, il a été condamné à 4 ans de prison par une cour de Washington. Étudiant à Shanghai, il a été ciblé par des agents de la sécurité d'État qui, se présentant comme consultant, l'ont généreusement rétribué pour des tâches d'abord anodines, puis de plus en plus précises, jusqu'à lui proposer une très forte somme pour passer le concours d'entrée de la CIA et les renseigner une fois à l'intérieur de l'agence.
And pay they did. I wrote a number of papers and each time Amanda paid me in cash.
Thanks.
Démasqué durant ses entretiens avec les recruteurs du service, Glenn Duffy a été jugé si représentatif de tous ces chercheurs, étudiants et ingénieurs américains piégés par la sécurité d'État chinoise que le FBI, renouant avec des techniques éprouvées dans les années 60, a produit un film de propagande sur son histoire.
The people.
Baptisé Game of Pawn, un terme d'échec qui signifie finale de pion, ce film, aux qualités artistiques pour le moins discutables, reconstitue l'approche du jeune Américain par les renseignements de Pékin, depuis son embauche par un obscur cabinet de conseil chinois jusqu'à sa rencontre avec un ponte de la sécurité d'État qui va lui demander d'infiltrer la CIA. Doucereux, le maître espion chinois est représenté par les scénaristes du FBI comme une figure paternelle perverse, multipliant les gestes d'amitié envers sa jeune cible, tout en jouant machinalement avec des pièces d'échecs chinois.
The Shanghai government was looking for American students to write papers on Chinese-American relations.
L'ironie de cette histoire, comme le pointe notre guide Nigel Inkster dans un demi-sourire, c'est qu'avant de s'affronter tous azimuts, les maîtres espions américains et chinois étaient les meilleurs amis du monde, unis pour faire pièce à l'Union soviétique.
Well, it really began to change after the end of the Cultural Revolution, a period in parenthesis during which China's intelligence services effectively ceased.
Pendant la révolution culturelle, on peut dire que les services de renseignement chinois ont pratiquement cessé de fonctionner. Mais après, avec l'ouverture et les réformes menées par Deng Xiaoping à partir de 1978, les services chinois se sont progressivement ouverts à l'extérieur.
intelligence liaison relationship with the United States of America, consequent upon Richard Nixon's visit in 1971.
À cette époque, ils étaient depuis plusieurs années en lien avec leurs homologues américains, suite au voyage de Richard Nixon en Chine en 1971. Cette coopération était principalement dirigée contre l'Union soviétique. Les États-Unis ont positionné des agents dans le Xinjiang pour surveiller les signaux émis par les tests de missiles soviétiques.
These stations were set up and funded by the Americans, but actually staffed by the Chinese.
Ces stations étaient financées par les Américains, mais opérées par des Chinois. Et les échanges de renseignements entre les deux pays étaient assez nourris. Le renseignement chinois menant des opérations à travers la frontière. Mais à mesure que le pays s'est ouvert et réformé, la Chine a développé sa présence internationale. Un nombre croissant de pays l'ont accepté comme partenaire. Il y a eu plus d'ambassades chinoises dans le monde, chacune avec un attaché de défense.
Most of these had defense attachés officers, and the defense attachés. China's defense attachés are not real sort of fighting.
Il faut savoir que les attachés de défense chinois ne sont pas, comme c'est le cas en Occident, des soldats. Ils ne sauraient pas quelle extrémité du fusil il faut tourner vers l'ennemi. Ce sont des agents de renseignement entraînés et formés à la collection de renseignements, principalement de sources ouvertes. Car même si ces informations sont ouvertes et donc sans valeur pour nous, elles en ont beaucoup pour la Chine, qui, à la fin des années 70, commençait tout juste à s'ouvrir au monde.
Guangming Daily, New China News Agency, and so on. And again, you know, most of these operatives were engaged largely in overt collection.
À la même époque, de nombreux officiers de renseignement ont été introduits dans les médias d'État, notamment parmi les correspondants de l'agence Chine Nouvelle. Là encore, les informations recueillies par ces faux journalistes n'étaient pas confidentielles, mais elles étaient très utiles à la Chine. Et toujours à la même époque, la Chine s'est implantée dans des pays occidentaux qui disposaient de technologies, en particulier de technologies militaires, dont la Chine avait désespérément besoin. Aux États-Unis, les Américains d'origine chinoise étaient particulièrement bien implantés dans les entreprises de haute technologie. Et la Chine les a ciblés dans une vaste campagne de recueil de renseignements pour combler son retard en technologie militaire.
Dans les années 90, parallèlement à leurs efforts dans le renseignement économique, les services chinois se dotent également de capacités d'envergure pour mener des interceptions tous azimuts, tant sur les réseaux que dans le cyberespace.
Well, you saw during the 1980s and early 1990s, China developing a bigger external collection capability, bases along the coast of Myanmar, including one in the Andaman Sea.
Dans les années 80 et au début des années 90, on a vu la Chine développer ses capacités d'interception hors du pays, construire des stations d'écoute le long de la côte du Myanmar, notamment une dans la mer d'Andaman, une autre sur les îles Koko.
That obviously increased their reach, and as the Chinese Navy began to develop.
Ils ont également acheté deux anciennes bases de communication militaire russes à Cuba, ce qui a considérablement augmenté leur périmètre d'interception. La marine chinoise a de son côté développé des navires d'interception, tandis que les postes diplomatiques chinois à l'étranger ont été équipés de plateformes d'écoute.
A small, fairly modest still expansion of China's signals intelligence capabilities. But you're right that of course the arrival of the internet.
Durant toute cette période, la Chine a œuvré pour développer ses capacités d'interception, qui restent encore aujourd'hui très modestes. Mais c'est l'arrivée d'Internet qui a tout changé. Les leaders chinois ont vu dans Internet un outil de développement économique.
But also, as it turned out, a very powerful tool domestically for social control and internationally for intelligence collection and the exercise of covert.
À l'intérieur du pays, Internet a été vu comme un vecteur de contrôle social, et à l'extérieur comme une plateforme d'espionnage et d'action clandestine. Et je pense que tout a probablement commencé lorsque le ministère de la Sécurité d'État a commencé à utiliser Internet pour recueillir des informations sur Falun Gong, un mouvement mystico-gymnique considéré comme subversif en Chine.
The MSS quickly realized that this was a way of helping to deal with this problem.
Ce mouvement est principalement actif à l'étranger, donc hors de portée de l'État chinois. Et la sécurité d'État a vite compris qu'Internet permettait de pallier ce problème. Au même moment, la Chine a compris qu'il y avait des trésors de renseignements sur les serveurs et dans les bases de données occidentales, que ceux-ci étaient très mal sécurisés. L'opportunité était trop belle pour la laisser passer, et le 3e département de l'armée populaire, en charge des interceptions, s'en est très vite saisi. Comme toujours en Chine, ce n'est pas seulement les services d'État qui ont œuvré dans ce dossier. Des groupes de hackers et des milices électroniques citoyennes, dont les relations avec l'État sont plus informelles, sont montés à l'assaut d'Internet pour mener des missions de renseignement, essentiellement de l'espionnage industriel.
Industrial espionage, IP theft, if you like. A lot of this was actually quite unstructured, and we saw as this phenomenon began to take off, during the.
Tout cela a été relativement désorganisé, et on a bien vu au milieu des années 2000 qu'il y avait deux types de cyberespionnage.
There was somewhat more disciplined and the professional variety undertaken by the.
L'un relativement maîtrisé, émané du 3e département de l'armée populaire, et l'autre, bruyant et malhabile, était l'œuvre de toutes sortes d'individus mal identifiés. Bref, tout cela était très désorganisé. Il y a eu beaucoup de doublons, mais de l'extérieur, cela formait malgré tout un ensemble cohérent.
Donc, ces gars
car tous ces pirates étaient calés sur le rythme de la vie de bureau chinoise. Ils s'arrêtaient à midi pile, prenaient un long déjeuner et faisaient une sieste avant de reprendre le travail. Ils n'opéraient pas les jours fériés chinois. Bref, ils ne faisaient pas beaucoup d'efforts pour masquer leurs activités. Pourquoi l'auraient-ils fait? Ils opéraient en toute impunité.
En 2015, it became an issue of such consequence that China was obliged to.
Et en 2015, c'est devenu un tel problème que la Chine a été obligée de signer un accord avec les États-Unis et de s'engager à ne pas mandater des services d'État pour mener des opérations de cyber-renseignement. L'accord a été signé par Xi Jinping et Barack Obama. Et pendant quelque temps, il a été respecté. On a vu une nette diminution d'attaques contre les États-Unis et leurs alliés. Mais dans le même temps, les attaques contre d'autres pays occidentaux ont augmenté, particulièrement contre ceux qui, contrairement aux États-Unis, étaient incapables de déterminer l'origine d'intrusion dans les réseaux.
Ce sont les prouesses du cyber-renseignement chinois qui terrifient l'Europe et les États-Unis. Les actions clandestines que mène la Chine sur les réseaux ont été mises en scène par le génie américain du thriller Michael Mann dans Hacker, où cyber-espions américains et chinois font cause commune contre un pirate renégat. Le film nous fait pénétrer dans les délibérations secrètes des cyber-commandos qui restent, on l'imagine, assez éloignés de leur modèle réel.
Qu'est-ce qu'on sait sur ce gars-là?
Son grand-père était chef militaire supérieur à Shanghai dans les années 20 et il a affronté les Japonais durant la guerre civile. Son père s'est fait nommer sous-secrétaire du commerce par les Nations Unies. Il a déménagé à New York, a poursuivi ses études au MIT. Sa sœur est ingénieure de réseau pour une firme privée.
Elle a grandi à New York, elle aussi?
Non. Ce gars-là est une star du département de cyberdéfense chinoise.
Collaborer avec eux? C'est les invités dans le poulailler, tu le sais, Carole.
Stanley, on est en conflit avec les Chinois et leur cyber-intrusion pratiquement tous les jours. Ce serait pas une si mauvaise idée qu'on travaille ensemble, pour une fois.
Je veux que tu surveilles de près tout ce à quoi ils auront accès ou pas. Ok? C'est compris? Envoie leur le code.
Cette paranoïa envers les cyberespions chinois a atteint des niveaux stratosphériques avec Huawei, l'équipementier télécom qui domine le marché de la 5G, la dernière génération des réseaux cellulaires. Arguant que l'entreprise avait des liens avec le renseignement chinois, les États-Unis lui ont interdit leur marché intérieur. Au début de cette année, la vice-présidente de Huawei et fille du fondateur a été arrêtée au Canada à la demande des États-Unis.
L'Australie a emboîté le pas à Washington et fermé, elle aussi, son marché intérieur à Huawei. La polémique a empêché l'ancien ministre Jean-Louis Borloo de prendre la présidence de Huawei France, alors que, dans le même temps, le groupe chinois faisait de Monaco le premier pays européen entièrement équipé en réseau 5G. Huawei est-il vraiment un cheval de Troie du renseignement chinois pour écouter nos conversations? Même les maîtres espions ne sont pas d'accord. L'ancien chef du renseignement britannique, Sir Richard Dearlove, est sur une ligne dure.
We know the threat exists, but it's really a policy decision how you deal with it. And I mean, my argument to the government has been that
on sait que la menace existe. Maintenant, c'est aux responsables politiques de décider ce qu'il convient de faire. J'ai toujours dit au gouvernement, vous ne pourrez jamais être sûr que la sécurité du pays soit menacée si vous autorisez la Chine à fournir les équipements et les logiciels de vos réseaux 5G. Vous savez, c'est toujours la même chose. Les experts disent « ne faites pas ça ». Mais là, c'est vraiment un choix politique. Il faut être suffisamment courageux pour prendre une décision, quelle qu'elle soit. Et c'est une décision difficile si l'on considère l'avance dont dispose Huawei dans ses technologies 5G. Non seulement leurs équipements sont performants, mais ils sont relativement peu chers. Mais bon, le problème, c'est que si les équipements sont piégés, vous ne trouverez jamais le piège. Vous ne pouvez pas disséquer chaque puce, ça ne marche pas comme ça. Et peut-être qu'il n'y aura jamais de problème. Mais on ne sait pas comment va évoluer notre relation avec la Chine dans 10 ou 15 ans. Et s'il y a effectivement des pièges dans leurs équipements, ils peuvent être actionnés à n'importe quel moment. Tout peut fonctionner parfaitement pendant des années. Ma position est très radicale. Je considère que nous n'avons pas besoin de ce genre de problème. Mais il y a beaucoup de gens au Royaume-Uni qui ne sont pas d'accord. Et de toute façon, la décision sur ce sujet sera revue par le prochain Premier ministre. Et je suis certain que nous irons dans le même sens que l'Australie, le Canada et les États-Unis.
Mais notre guide chinois, Nigel Inkster, bien que très proche de Sir Richard, a un avis beaucoup plus mesuré sur la question.
Tout le débat autour de Huawei et de ses équipements 5G tourne autour de l'espionnage, et franchement, ce n'est pas le sujet. Je viens de vous parler des opérations d'espionnage industriel menées par la Chine. Aucune de ces opérations n'a utilisé des réseaux Huawei. La 5G, c'est une technologie de rupture, parce qu'elle permet à d'autres technologies de fonctionner. L'intelligence artificielle, les opérations autonomes, l'Internet des objets, etc. En d'autres termes, la 5G représente beaucoup plus que la somme de ses parties.
And I think that what's happened with 5G for the United States in particular, it's been something of a Sputnik moment, the realization that here is an area of technology.
Pour les États-Unis, le développement de la 5G par la Chine est un moment équivalent à celui du lancement du Sputnik par les Russes. Un pays concurrent les double sur une technologie critique et devient celui qui va mettre en place les standards mondiaux. Et c'est cela le sujet. Si la Chine établit les standards mondiaux pour la 5G, cela lui donne une influence stratégique et un poids considérable, considérant que la 5G ouvre la porte à l'intelligence artificielle, à la génération, mais surtout au tri de données à grande échelle. Et donc donne aux pays qui maîtrisent cette technologie un pouvoir et une influence déterminante. Donc tout ce débat sur Huawei et la 5G a beaucoup plus à voir avec le contrôle des réseaux de communication mondiaux qu'avec l'espionnage en tant que tel. Bien sûr, l'espionnage n'est pas absent du débat, mais il s'agit de quelque chose de bien plus large. Pour l'état-major américain, par exemple, l'idée qu'ils ne vont pas pouvoir communiquer dans un environnement sécurisé et contrôlable est un défi considérable. C'est la première fois de leur histoire qu'ils vont devoir faire quelque chose de ce genre. Comparé avec le 19e siècle, l'époque où le Royaume-Uni, par le biais de cable and wireless, installait tous les réseaux télégraphiques mondiaux, la puissance que cela conférait au gouvernement britannique. Comparé avec la puissance qu'a conféré Internet aux États-Unis, à l'époque où c'était une création américaine à 100%, et où toutes les communications passaient par le territoire américain ou britannique, ce qui, en matière de renseignement technique, revient au même. Donc voilà, c'est ça le débat.
Ren Zhengfei, l'ancien ingénieur militaire qui a fondé Huawei et le préside toujours aujourd'hui, a pour sa part une approche assez originale du problème comme il l'a expliqué en avril à la chaîne financière CNBC.
Durant le siècle dernier, quelle entreprise a fait peur aux États-Unis? Les États-Unis n'ont jamais eu peur de rien ni de personne. Si un pays aussi puissant a peur d'une petite entreprise comme nous, d'autres pays viennent nous dire « Vos produits sont suffisamment performants pour faire peur aux États-Unis. On les achète tout de suite, sans même faire de tests. »
Le dossier Huawei démontre une fois encore que le champ de la bataille secrète que se livrent, par espions interposés, la Chine et l'Occident, est avant tout économique. Ce que confirme Sir Richard Dearlove.
Their use of their intelligence capability to gain economic advantage over the West.
Utiliser comme ils le font leurs services de renseignement pour disposer d'un avantage économique sur l'Occident ne sera plus acceptable à l'avenir. C'est ce qu'a voulu Deng Xiaoping. Les services chinois, à l'époque, s'occupaient beaucoup plus d'espionnage économique que politique. Quand on lit les mémoires de Kissinger sur la Chine, on voit bien que Deng Xiaoping ne s'intéressait pas aux renseignements politiques. Il avait un point de vue idéologique sur le monde et il n'allait pas en changer. Les renseignements acquis par les services, et tout particulièrement les vols de propriété intellectuelle qu'ils ont opérés, ont été critiques dans la reconstruction de l'économie chinoise. Et tout cela s'est passé sous notre nez, sans contrôle. L'Occident prend actuellement conscience du problème et réorganise sa politique envers la Chine. Mais ça ne veut pas dire qu'on les considère comme des ennemis. Mais en revanche, on les voit comme des concurrents.
Une conséquence inattendue de l'activisme économique des espions chinois est que certains ont fini, au milieu des années 2000, par se considérer eux-mêmes comme des businessmen. Un versant mal connu du monde de l'espionnage chinois que nous raconte Nigel Ixter, alors aux premières loges.
Toute cette scène cyber en Chine était relativement complexe. Les sociétés d'État, par exemple, menaient leurs propres opérations d'espionnage sur Internet en mandatant des hackers. Même les techniciens du 3e département de l'armée populaire travaillaient au noir pour le secteur privé chinois. Ils se mettaient à récolter toutes sortes d'informations qui n'avaient aucune valeur militaire, mais qu'ils revendaient aux entreprises chinoises. To China's private sector.
La situation a perduré sous le règne de Hu Jintao pour le plus grand bénéfice de certains maîtres espions. Mais dès son arrivée au pouvoir, Xi Jinping a sifflé la fin de la partie.
In essence, you know, the Chinese Communist Party can't trust its own people and it can't really trust its own officials.
En substance, le Parti communiste chinois ne peut pas faire confiance à ses membres. Il ne peut pas vraiment faire confiance à ses cadres. Ce qu'on voit en ce moment en Chine, c'est une campagne contre la corruption initiée par Xi Jinping quand il est arrivé au pouvoir en 2013. Le point de vue de Xi Jinping, c'est que le problème de la corruption au sein du Parti communiste menace son pouvoir même sur la Chine. Au moment où il a lancé cette campagne, on peut dire sans crainte de se tromper que presque tous les cadres du parti avaient mis la main dans le pot de confiture. Tout le monde était coupable. Dans ce contexte, ceux qui ont été ciblés sont ceux qui s'opposaient à la ligne de Xi Jinping, à commencer par Zhou Yongkang. Zhou était censé être le chef de la mafia pétrolière, comme on l'a appelé en Chine. Pour prendre une analogie américaine, c'est comme si la même personne était simultanément directeur de la CIA, PDG de Chevron et boss de la mafia. Entre parenthèses, ça montre combien, dans les dernières années du règne de Hu Jintao, les agences de renseignement civil, comme le ministère de la Sécurité publique, ont été intégrées dans des réseaux d'allégeance et de corruption. Tant et si bien qu'elles se sont mises à écouter les communications non plus des opposants, mais des cadres du parti. Ensuite, Xi Jinping a mené une vaste campagne pour rappeler aux militaires qu'ils combattaient dans l'armée du Parti communiste et non dans une armée d'État. Campagne qui s'est accompagnée d'une chasse aux généraux corrompus.
In the top echelons of the Chinese military, and in essence, 3PLA. To cut a long story short,
en d'autres termes, l'état-major s'est vu intimer l'ordre de cesser de travailler au noir pour le secteur privé et devrait au contraire à construire des capacités militaires d'envergure pour la Chine. Les généraux ont obtempéré. Ça a créé un vide que, bien sûr, les services de renseignement civil ont été ravis de combler. Ce d'autant plus que, comme je l'ai expliqué, le ministère de la Sécurité publique s'était laissé entraîner dans les réseaux de son chef, Zhou Yongkang, et que la chute de ce dernier avait durement impacté le service, qui s'efforçait par tous les moyens de redorer son blason.
Après Zhou Yongkang, c'est le responsable du contre-espionnage Ma Jiang, puis le ministre de la Sécurité d'État Geng Wicheng, qui ont été ciblés par la toute-puissante Commission centrale de discipline et d'investigation du Parti communiste chinois. À la faveur de la purge de Xi Jinping, ces enquêteurs anticorruption sont devenus si puissants que c'est le premier d'entre eux, Cheng Wenqing, qui a été choisi pour prendre la tête du ministère de la Sécurité d'État.
Désormais fermement aux commandes de ses services de renseignement, Xi Jinping continue d'en faire le fer de lance de l'économie chinoise à travers le monde. En face, les pays occidentaux semblent peinés à trouver une réponse appropriée. Que ce soit l'ex-patron du renseignement intérieur allemand Hans-Georg Maaßen, qui fut l'un des premiers à lancer l'alerte sur l'entrisme économique chinois, ou bien l'ancien directeur du MI6 John Sowers, personne ne semble avoir trouvé la parade.
J'ai vu l'espionnage économique chinois en action et j'ai considéré que c'était non seulement comme une très grande menace envers l'indépendance économique allemande, mais également celle des États européens.
J'ai aussi avec mes Français et mes autres collègues discuté.
J'ai eu de longues et fréquentes discussions sur ce sujet avec mes collègues français notamment, et j'en suis arrivé à la conclusion que ce que je voyais devait être rendu public. En tant que directeur du BFV, l'une de mes missions était d'alerter le public. Je continue à considérer les investissements chinois en Europe comme une grande menace envers l'indépendance européenne. Tout particulièrement allemande, parce que je vois que nous devenons économiquement et même politiquement dépendants de la Chine. Je vois que des milliers d'emplois en Allemagne dépendent de la Chine, et nous n'avons donc pas la possibilité de décider librement de notre sort. Dans les négociations sur l'installation des réseaux 5G, on nous explique que Huawei devrait opérer sans contrainte en Allemagne. C'est important de tirer la sonnette d'alarme.
Encore une fois, contrairement à la Russie, je ne pense pas que la Chine veuille affaiblir l'Occident. Elle veut construire la Chine. Et ils y sont si bien arrivés que maintenant la Chine a la plus grande économie du monde en termes de pouvoir d'achat et bientôt en termes de marché. Donc, oui, la Chine pose une question stratégique. Je pense que la Chine veut étendre son influence et son pouvoir, mais ne pas rabaisser l'Occident.
But not trying to do down the West.
Le problème, c'est qu'en Occident, nous ne sommes pas intellectuellement préparés pour un monde où il n'y a plus un, mais deux superpuissances, et où graduellement la Chine prend le dessus. Mais c'est quelque chose auquel il va falloir s'habituer, car c'est une évolution naturelle.
Because it's just a fact of life.
Merci à Nigel Inkster, Sir Richard Dearlove, Hans-Georg Maassen, John Sowers, mixage Pierre-Henri, réalisation Rafik Zénine. C'était Les espions qui aimaient trop le business, la Chine, dans la série de Philippe Vasset et Pierre Gatineau, Conversation secrète.
Ren